France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Xavier Atto, Frédéric Kiefer et Olivier Dehaye. Voici la troisième émission de notre série consacrée aux instruments à vent. Après la flûte et le hautbois, avant la clarinette et vendredi le saxophone, nous écouterons aujourd'hui l'un des plus beaux sons de l'orchestre, celui du cor anglais. Un instrument à hanche double de la famille des hautbois, jouant une quinte en dessous du hautbois, comme l'alto par rapport au violon. Le cor anglais est un instrument qui n'a rien de spécifiquement anglais, mais il est plutôt anglais avec un angle au niveau du bocal, ce tuyau qui relie le bec et le corps de l'instrument. On pense aussi que ce terme de anglais serait une déformation de l'allemand Englisch, qui veut dire angélique, ce serait le corps angélique. Quelles que soient les explications étymologiques de ce corps anglais, c'est notre héros du jour avec des partitions de Rossini, Wagner, Borodine, César Franck, Verdi, Dvorak, Sibelius, Ravel et Joaquin Rodrigo. Mais on commence avec un maître de l'orchestration, Hector Berlioz, dans un extrait de sa symphonie fantastique. Le cor anglais de Stefan Verdegem dans l'ensemble Anima Eterna dirigé par Jos van Immersel. C'est un court extrait de la symphonie fantastique. Le troisième mouvement, scène au chant de Hector Berlioz, met en avant cet instrument au sujet duquel le compositeur écrit et voilà un son, un timbre qui est moins perçant que celui du hautbois, plus voilé et plus grave. Et il ne se prête pas comme le hautbois à la gaieté des refrains rustiques. Il ne pourrait non plus faire entendre des plaintes déchirantes. Les accents de la douleur vive lui sont à peu près interdits. C'est une voix mélancolique, rêveuse, assez noble, dont la sonorité a quelque chose d'effacé, de lointain, qui la rend supérieure à tout autre. Quand il s'agit d'émouvoir en faisant renaître les images et les sentiments du passé, quand le compositeur veut faire vibrer la corde secrète des tendres souvenirs. Dans l'adagio de mes symphonies, le cor anglais, après avoir répété à l'octave basse les phrases d'un hautbois, comme ferait dans un dialogue pastoral la voix d'un adolescent répondant à celle d'une jeune fille, on redit les fragments à la fin du morceau, avec un sourd accompagnement de quatre timbales, pendant le silence de tout le reste de l'orchestre, les sentiments d'absence, d'oubli, d'isolement douloureux qui naissent dans l'âme de certains auditeurs à l'évocation de cette mélodie abandonnée n'auraient pas le quart de leur force si elle était chantée par un autre instrument que le cor anglais. Fin de citation. Ce cor anglais, nous allons le retrouver dans une célébrissime partition de Gioacchino Rossini, qui a fait le bonheur de Frédéric L'Odéon pendant ses émissions avec ce générique de cavalcade qu'on va entendre avec l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. Mais avant cette célèbre chevauchée, eh bien, il y a cette mélopée du cor anglais. révolte des Suisses contre les Autrichiens, symbolisant cette cavalcade de Gioachino Rossini qui conclut l'ouverture de Guillaume Tell avec l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. Et auparavant, dans la troisième partie de cette ouverture, on entendait le Rang des Vaches interprété par le cor anglais de Engelbert Brenner avec des arabesques de la flûte de John Woomer. Alors la partie de l'une des plus belles parties de cor anglais de l'histoire de la musique, elle a été écrite par Richard Wagner au sein de Tristan et Isolde pour le chant d'un pâtre, d'un berger. Je vous propose d'entendre une version assez particulière de cette partition. Il s'agit de la partie de cor anglais toute seule, sans l'orchestre, sans les autres instrumentistes. C'est une expérience à laquelle nous allons livrer grâce à la hoboïste Céline Moinet, qui est au bois solo de l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde et qui a consacré un très bel enregistrement chez Harmonia Mundi au cor anglais avec cette version toute nue, dirait-on. Céline Moinet au cor anglais, dans un extrait de Tristan und Isolde de Richard Wagner, le chant du pâtre du berger, au troisième acte de cette partition. Le son du cor anglais a été pour plusieurs compositeurs évocateur de l'Orient, un Orient fantasmé, aussi lointain qu'imprécis. C'est le cas par exemple de cette merveilleuse partition d'Alexandre Borodine dans les steppes d'Asie centrale, composée en 1880 et dont le compositeur nous laisse cette évocation dans le silence des steppes sablonneuses de l'Asie centrale retentit le premier refrain d'une chanson paisible russe. On entend aussi les sons mélancoliques des chants de l'Orient. On entend le pas des chevaux et des chameaux qui s'approchent. Une caravane escortée par des soldats russes traverse l'immense désert, continue son long voyage sans crainte, s'abandonnant avec confiance à la garde de la force guerrière russe. La caravane s'avance toujours. Les chants des Russes et ceux des indigènes se confondent dans la même harmonie. Leurs refrains se font entendre longtemps dans le désert et finissent par se perdre dans le lointain.
Thank you.
Srednyei Asie, voilà le titre en russe de cette partition d'Alexandre Borodine en l'Asie centrale, tout simplement, et on l'a traduit dans les steppes de l'Asie centrale. Ce poème symphonique qu'Alexandre Borodine avait conçu en 1880 pour célébrer l'expansionnisme colonial russe et puis aussi pour célébrer cette orchestration chatoyante qui nous permet d'entendre un cor anglais, une partition dédiée à Franz Liszt et ici jouée par l'orchestre symphonique de Göteborg dirigé par Neeme Järvi.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Nommez-moi une seule symphonie de Haydn ou de Beethoven qui emploie le cor anglais. Voilà ce qu'aurait déclaré le directeur du Conservatoire de Paris, Ambroise Thomas, pendant les répétitions de la symphonie en ré mineur de César Franck, dont le deuxième mouvement fait retentir un cor anglais. Peut-être cette phrase est-elle apocryphe et ce sont les ennemis d'Ambroise Thomas qui l'ont fait parler ainsi, d'autant plus qu'il y a effectivement du cor anglais dans des partitions de Haydn comme sa 22e symphonie, Le Philosophe. En tout cas, on a été marqué au moment de la création de cette partition dans les années 1889 par cette présence du cor anglais, comme le rappelle ici Alain Denis, qui est le cor anglais de l'Orchestre de Paris, dans cet enregistrement dirigé par Daniel Barenboim, deuxième mouvement Allegretto de la symphonie en ré mineur de César Franck.
Thank you.
Un extrait de la symphonie en ré mineur de César Franck. C'était le deuxième mouvement Allegretto avec l'orchestre de Paris dirigé par Daniel Barenboim et le cor anglais de Alain Denis, partition conçue entre 1886 et 88. Elle est donc strictement contemporaine de cet immense chef-d'œuvre shakespearien qui est Otello de Giuseppe Verdi sur un livret d'Arrigo Boito, partition dans laquelle le maître italien utilise lui aussi le cor anglais dans une conversation entre Desdemone et Emilia. Desdemone s'apprête à chanter la célébrissime chanson du Saul et dans cet entretien avec sa femme de chambre, eh bien elle est accompagnée par ce cor anglais qu'on va entendre ici dans une des toutes dernières enregistrements de Otello. C'est en 2019 que l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome était dirigé par Antonio Pappano avec Jonas Kaufmann dans le rôle titre. On ne l'entendra pas ici. Ici, c'est Desdemone chanté par Federica Lombardi et Emilia par Virginie Verrez. C'est en 2019 qu'Antonio Pappano avait dirigé l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, avec notamment Maria Hirsara au cor anglais pour cette intégrale d'Otello de Giuseppe Verdi, avec, on l'entendait à l'instant, Federica Lombardi en Desdemone et Virginie Vérez en Emilia. Tout à l'heure, je vous ai proposé d'écouter l'Orchestre de Paris, dirigé par Daniel Barenboim, avec celui qui était alors le cor anglais solo de l'orchestre, Alain Denis, dans la symphonie en ré mineur de César Franck. Et bien auparavant, le cor anglais de l'Orchestre de Paris, c'était monsieur Jean-Claude Malgoire, qui va devenir chef d'orchestre et fondateur d'orchestre, qui nous a quitté malheureusement il y a 2 ans, et qui a inscrit son nom au panthéon de la musique baroque avec la grande écurie, la chambre du roi, avec l'atelier lyrique de Tourcoing et autres aventures. Mais Jean-Claude Malgoire était d'abord oboïste et donc il jouait du cor anglais au sein de l'Orchestre de Paris, comme on l'entend dans cet enregistrement dirigé par Georges Prêtre. On continue dans l'évocation chronologique de ces partitions utilisant le cor anglais, et on ne pouvait pas passer à côté de la 9e symphonie d'Antonín Dvořák, symphonie du Nouveau Monde, dont le 2e mouvement, l'argot, utilise à bon escient cet instrument, avec une partition qui devient plus tard un gospel, Going Home. Dvorak s'inspire du répertoire afro-américain et amérindien dans cette 9e partition. Jean-Claude Malgoire sur France Musique au cor anglais. Jean-Claude Malgoire au cor anglais avec l'orchestre de Paris dirigé par Georges Prêtre. C'était le Largo, deuxième mouvement de la 9e symphonie, la symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Tandis que Dvorak termine à New York la composition de cette partition en 1893, Jean Sibelius entame au même moment la composition de cette légende de Lemminkäinen, la suite Lemminkäinen, qui sont plusieurs évocations du Kalevala, ce récit des mythologies finlandaises, notamment du royaume des morts, le Tuonela, royaume de l'au-delà, dont l'animal emblématique est un cygne représenté par Jean Sibelius par le cor anglais. C'est Jukka Hirvikangas qui joue ici du cor anglais avec l'orchestre symphonique de Lahti, dirigé par Osmo Venske, dans l'opus 22 de Jean Sibelius, le cygne de Tuonela. Le signe de Tuonela de Jean Sibelius était un extrait des légendes de Lemminkäinen du compositeur finlandais avec l'orchestre symphonique de Lahti, dont le cor anglais de Jukka Hirvikangas, dirigé par Osmo Venske dans cette partition conçue entre 1893 et 1895. Nous évoquons maintenant le XXe siècle dans ce petit parcours de quelques partitions orchestrales sollicitant le cor anglais, avec en 1929-1931 le concerto en sol de Maurice Ravel qui avait été créé par Marguerite Long, avec l'orchestre des concerts Lamoureux dirigé par le compositeur, et un deuxième mouvement Adagio assai qui est une pure merveille héritier qui se fait l'héritier notamment de Mozart mais également de Camille Saint-Saëns. Je vous rappelle que cet été j'aurai le plaisir de vous présenter une série de 8 émissions qui s'appelle Le Carnaval de Monsieur Saint-Saëns, où on parlera notamment de l'admiration de Maurice Ravel pour l'œuvre de Camille Saint-Saëns. Ici, le deuxième mouvement Adagio assai est interprété par Roger Muraro avec l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Hoon Chung, avec au cor anglais Stéphane Souchanek. Stefan Suchanek, ou Suchanek si vous le dire à la polonaise, jouait le cor anglais dans l'orchestre philharmonique de Radio France en 2010, salle Pleyel, sous la direction de Byung Moon Chung, pour accompagner le piano de Roger Muraro dans le concerto en sol de Maurice Ravel, dont c'était l'adagio assai central. Voici une dernière partition, cette fois-ci également des années 30, cette fois-ci de la fin des années 30, 1939. Joaquin Rodrigo écrit son célébrissime concerto d'Aranjuez avec son nombreux célébrissime adagio central, qui nous permet de retrouver ici la guitare d'Emmanuel Rosfelder et puis également un thème de cor anglais avec l'orchestre d'Auvergne dirigé par Harry Van Beck.
Thank you.
Le guitariste Emmanuel Rosfelder en 2012 dans le concerto d'Aranjuez, le mouvement lent adagio de Joaquín Rodrigo avec l'orchestre d'Auvergne dirigé par Harry Van Beck. C'est Bérangère Renou que nous entendions au cor anglais. Voilà, je voulais finir avec un petit clin d'œil au bassoniste pour finir cette émission avec Augustin Humeau qui jouait le solo introductif du Sacre du Printemps de Stravinsky.
À réécouter sur francemusique.fr.